Vous écoutez RTL.
Bonjour Eric Woerth.
Bonjour.
Angela Merkel a été brillamment réélue dimanche en Allemagne. Quelle leçon la droite française peut-elle tirer des succès de la droite allemande?
D'abord, tous ceux qui pariaient sur la défaite d'Angela Merkel se sont lourdement trompés. Si, François Hollande a longtemps parié sur son échec et il n'y a pas si longtemps que cela.
Non, mais ils se sont trompés. Qu'est-ce que vous pouvez
Moi, je pense que tout ce qui est stabilité sur le plan politique est une période un peu rêvée. Ben, bien sûr, ouais. Mais c'est aussi les hommes et les femmes politiques qui doivent se faire élire parce qu'ils mènent de bonnes
politiques. Je ne sais pas, fin du SMIC, fin des 35 heures.
Oui, c'est aussi la capacité dans le modèle allemand.
Le SMIC, c'est un problème en France ou pas? Les 35 heures, c'est un problème?
C'est la capacité à réformer un pays, c'est dire les choses telles qu'elles sont et puis les faire. Regardez, quand on parle des mini-jobs, en Allemagne, en réalité, nous, on a fait le choix du maxi-chômage. On fait le choix des mini-jobs, c'est-à-dire qu'ils ont, à un moment donné, une adaptation de leur marché du travail. Ça fait 10 ans qu'ils adaptent leur économie.
Quand vous dites « nous », c'est vous aussi. 2007-2012,
l'ensemble de la société française, bien sûr.
2007-2012, vous avez fait ces choix-là aussi.
Je m'inclus. Nous avons fait clairement le choix du maxi-chômage contre celui des mini-jobs. Parce qu'à un moment donné, la société française, elle n'a pas que des gens qualifiés. Il faut bien, à un moment donné, créer des emplois là où il y a des gisements. Dans les services, il y a des gisements d'emplois. L'affaire Sephora, d'ailleurs, le montre.
Vous autoriseriez, si vous le pouviez, le travail de nuit chez Sephora?
Oui. Je pense que le juge a jugé en droit, mais la réalité, c'est le problème des politiques.
C'est important, le droit.
Oui, bien sûr.
Il faudrait changer la loi.
Bien sûr, c'est un problème de loi, c'est pas un problème de justice. Et on voit bien que la société française, elle a des gisements d'emplois dans le domaine, notamment des services. Il y a l'industrie, évidemment, mais il y a surtout les services. Et pour les salariés peu qualifiés, il y a évidemment les services. Et puis il y a des consommateurs.
Et donc il faut casser le code du travail.
Il faut aussi s'adapter aux consommateurs.
Il faut casser le code du travail.
Mais pas casser, il faut faire évoluer le code du travail. Il suffit pas de dire qu'il y a trop de pages dans le code du travail, il faut dire lesquelles, il faut les arracher, puis il faut évidemment y revenir. Puis un autre enseignement qui est celui que il faut aussi que nous on clarifie notre politique économique. Les Allemands aujourd'hui, ils ont clarifié la donne au fond, ils ont accepté ce qui s'est fait depuis 10 ans, ils acceptent aussi un dirigeant rassurant et aussi un dirigeant qui réforme leur pays. Nous devons, nous comme premier partenaire de l'Allemagne, réformer notre politique économique, la faire comprendre. Il n'y a pas d'Europe sans couple franco-allemand, il n'y a pas de couple franco-allemand s'il y a une absence de compréhension de la politique de l'un et de la politique de l'autre. Les Allemands comprennent pas notre politique économique, ils ont bien raison.
Oui, nous aussi, des fois, on a du mal à la comprendre.
En vue d'Allemagne, c'est encore plus exotique.
Sans doute. Jean-François Copé, qui est le président de l'UMP, dit lui, si on revient au pouvoir, nous opérerons une baisse massive des impôts. Ah ben, pourquoi pas, c'est une bonne idée, qui sera financée par la suppression d'1 million de fonctionnaires.
Il faut évidemment baisser les dépenses. Rien n'est respecté dans ce pays. Les déficits augmentent, ils devaient baisser. Les dépenses augmentent, elles devaient baisser, etc.
Donc
on voit bien. Non, on n'a pas fait complètement pareil. Je voudrais juste vous rappeler que vous avez pendant 3 ans.
Mais
évidemment, il y avait la crise. Évidemment.
Voilà, il y a toujours une raison.
Non, mais attendez, c'est pas une raison. C'est que la récession française, c'était -4%. -4%. Il y a un écart absolument considérable. Quand le gouvernement se bat à 0,1, 0,2 et tord du ventre là-dessus, nous on était à -4. Il y avait une crise majeure qu'il fallait affronter partout dans le monde.
Oui.
Et elle a été affrontée évidemment aussi en injectant des finances publiques et donc en augmentant les déficits. Je vous ferai remarquer que les déficits, ils ont singulièrement baissé après parce que la crise était moins forte et qu'on était capable de reprendre la plupart des dépenses et puis les recettes rentraient à nouveau. C'est pas la politique du gouvernement actuel.
En Allemagne, les déficits augmentent 2009-2010 et ils commencent à baisser à partir de 2011.
Mais parce qu'il y a plus de flexibilité, parce qu'il y a plus de fluidité, parce que au fond, il y a une manière on embauche des gens plutôt que de les mettre au chômage, même si le salaire est pas suffisant. On accepte que le code de travail soit plus fluide. Il y a des accords d'entreprise. C'est pas le paradis sur terre, l'Allemagne. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a deux modèles. Le modèle anglais et le modèle allemand aujourd'hui, qui sont des modèles très très différents, qui s'en sortent beaucoup mieux que nous. Il y a moins de chômage, il y a une croissance économique plus importante, et il y a du pouvoir d'achat aussi qui commence à de nouveau être distribué. On en est loin en France.
On peut dire ce matin, Eric Woerth, que ce qui manque à l'UMP, c'est un chef?
Mais il y a un chef, il y a un président de l'UMP qui s'appelle Jean-François Copé, vous l'avez remarqué.
Mais en même temps,
il y a moins de chefs qu'auparavant, il y a moins de chefs légitimes, il y a moins de chefs qui s'imposent, on le voit bien. Il y a des parcours parfois un peu trop individuels. Et puis un dernier point sur Merkel, c'est qu'on doit préparer les élections européennes ensemble. Ensemble, il faut qu'on les prépare ensemble. Il y a une montée des populismes en Europe. Ils font des voix, les populistes, en Allemagne, comme ils font des voix en France. Et nous devons, notamment à l'UMP, puisque vous me parlez de l'UMP, mieux collaborer, je pense, avec la CDU.
Et François Fillon s'est fait beaucoup de mal avec ses déclarations sur le Front National.
Vous savez, écoutez, on verra. Moi, je pense que François Fillon, il a essayé de poser le débat un peu. Oui, on verra. Je crois pas qu'il parle uniquement pour que le sondage du lendemain soit meilleur.
Ah ben là, il a gagné, là.
Oui, mais on verra sur le long terme. Le tout, c'est que ce soit évidemment clair. On n'a jamais appelé à voter pour le Front National, il n'appellera jamais à voter pour le Front National. Mais deux, ce qu'il essaye de faire, c'est au fond briser un certain nombre de carcans qui font qu'au fond, le Front National, il continue à être très très présent dans la politique française, donc on n'a pas dû faire ce qu'on devait faire. Je pense que la réalité des choses, c'est que les gens, ils attendent des preuves. En réalité, ils ne croient plus les politiques ni de droite ni de gauche. Ils se réfugient donc dans des extrêmes. Extrême gauche et extrême droite, et le Parti Socialiste en est largement responsable. D'abord, il crée des alliances avec l'extrême gauche, et en plus, les électeurs du Parti Socialiste, dans toutes les partielles, ont voté pour le Front National au deuxième tour.
Vous avez des contacts, vous, avec Nicolas Sarkozy ?
J'ai pas de contact particulier avec Nicolas Sarkozy. Vous avez envie
qu'il revienne ? Vous pensez que c'est naturel qu'il reprenne le fil de la vie politique ?
Oui, d'abord, j'ai beaucoup d'affection pour Nicolas Sarkozy. Je pense que c'était un grand président et que l'avenir et l'histoire lui rendront justice. Je pense aussi que la droite a beaucoup de talents et qu'elle doit conserver des talents un peu différents en 2017. On verra ce dont la France a besoin en 2017. Nous, on doit avoir un programme
Nicolas
de gouvernement.
Passé,
et le programme de gouvernement, on doit pouvoir le rendre crédible vis-à-vis des Français. Et la crédibilité, c'est aussi un peu d'union nationale, c'est-à-dire de considérer qu'on peut dépasser les blocs idéologiques des partis politiques.
Nicolas Sarkozy et vous, Éric Woerth, attendrez sans doute ce matin avec beaucoup d'intérêt la décision de la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux qui dira si le juge Gentil peut poursuivre ou pas son instruction sur le dossier Bettencourt.
Nous verrons bien.
Vous connaissez le juge Gentil, vous l'avez fréquenté, quelle image vous avez de lui ?
Nous verrons bien, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une bonne manière de... Nous verrons bien, je ne vais pas en parler.
Vous voulez pas parler de ça ?
Non, j'en ai parlé depuis 3 ans, il y a beaucoup d'injustices, c'est un roman avec tellement de choses racontées dans tous les sens, et j'ai subi ça, et voilà, ça, à un moment donné ça suffit.
Ce serait une victoire pour vous si le juge était dessaisi ?
Mais moi, ce que je crois à un moment donné, c'est la victoire de la vérité et de l'innocence. Voilà. Donc, on verra bien. De toute façon, ça se passera comme ça à un moment donné, aujourd'hui, demain, après-demain.
Victoire de la vérité et de l'innocence, vous êtes innocent.
Oui, je vous l'ai dit déjà à de multiples reprises. C'est une simple réalité.
Éric Woerth, invité d'RTL ce matin.
Merci, Éric Woerth. Bonne journée à vous.